Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle. Trois jours pour devenir moins con. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Putain de bordel de merde. Je me souviens très bien que cette aventure, la plus importante de ma vie, a commencé par ces mots. Vidal, notre chef de section, tranché 212 de la côte 603 du front de Verdun, les avait prononcés après avoir fini la lecture de la lettre qu'il avait reçue le matin même de sa mère. Nous, les jurons, on s'en foutait, vu qu'on baignait dedans en continu, comme on baignait dans la boue, dans la faim, dans le sang des copains et dans la connerie des gradés. À tout prendre, les jurons, c'était de la gnognotte. D'une certaine façon, ça dégageait les branches et les boyaux. Mais la façon dont Vidal avait balancé ça nous avait interpellés. Nous, que je vous présente, c'était Lopez, un catalan de Perpignan, sec comme un pruneau oublié sur la branche, galant, un tourangeau malin comme un singe et prudent comme un paysan, Séché, un instituteur qui avait abandonné son école, en Normandie, pour se retrouver dans le piège d'une tranchée de Verdun, et puis, enfin, moi, Bernard, troufion de seconde dans l'armée et vigneron de première dans la vraie vie, quelque part entre Narbonne et Béziers. Quant à Vidal, c'était notre chef. Un poulbeau pur jus, solide comme le Sacré-Cœur, jamais à court d'idées, avec une gouaille à faire mourir de rire tous les copains et à faire s'étouffer tous les demi-chefs qui nous pourrissaient la vie. Un type droit, franc du collier, transparent comme de l'eau de source. Quand il posa sa lettre, Vidal, et qu'il nous regarda tous, l'un après l'autre, on comprit qu'il se passait quelque chose d'important. « C'est la fin de la guerre, » murmura-t-il. « Ma mère me l'a écrit. Vous savez qu'elle travaille au ministère de la guerre ?»« On acquiesça ça, comme des bœufs, comme du bon bétail qu'on était alors, quatre têtes au champ d'avant en arrière. Ça bouge à Paris, et à Berlin, tout craque. Elle me dit que le 11 novembre, le 12 au plus tard, tout sera fini. » On était le 8, en novembre, novembre 18. Trois jours à tenir, l'achat séché, le meilleur en calcul, comme il se doit. Ouais, répondit Vidal, trois jours sans se faire buter. La nouvelle était si énorme, si inattendue qu'on en resta baba. Et comment qu'on fait ? Demanda Galant, celui qui avait le plus de sens pratique. Pas compliqué, répliqua Vidal. On va se démerder pour qu'il nous tire plus dessus. Il, bien sûr, ça désignait ceux d'en face. Les Boches, les Schleux, les Fridolins. Sans doute une bande de 6 ou 7 gars qui nous ressemblaient comme des gouttes d'eau une fois qu'ils étaient à poil. Ouais, mais encore, rajouta Galant qui lâchait pas le morceau sans résistance. On va leur dire, asséna catégorique Vidal. On va leur dire, répliquèrent 4 voix incrédules. On va leur dire, répéta le chef, solide comme un trône de César. T'as donc un plan ? Glissa Galant. On va écrire sur le drapeau blanc ce que je viens de vous dire et on va le tendre au-dessus de la tranchée. Ils sont à 100 pas. Avec les jumelles, ils pourront lire le message. Comme tout ce que disait Vidal, ça se tenait. Sauf que Et où qu'il est le drapeau blanc ? Demanda Galant, parfait dans son rôle de poil à gratter. Et puis surtout, rajouta Lopez, avec son accent de moitié d'espagnol, il n'y en a pas un ici qui sait dire un mot d'allemand. Si le problème du drapeau blanc fut vite réglé, Vidal l'avait caché sous son uniforme, à même la peau, parce qu'il avait peur que les gradés nous le piquent, celui de la langue du Kaiser nous laissa aussi con que des premières communiantes. Au bout d'un moment, Séché proposa qu'on écrive notre message en français. On verrait bien ce qui se passerait. Alors, avec de la mélasse et de l'étoupe, on traça sur le drapeau « La guerre finit dans 4 jours, on le sait de Paris, on tire plus, c'est juré. » Puis on cloua le tissu à 2 piquets qu'on souleva au-dessus de la tranchée. Après ça, on attendit. Chose qu'on savait plutôt bien faire à Verdun à l'époque, sauf que là, on n'attendait pas la prochaine balle, ni le prochain assaut, ni la prochaine bordée de gaz, mais une réponse à une proposition de trêve. 10 minutes plus tard, un drapeau blanc surgit des lignes allemandes et l'on put y lire ces simples mots « Compris, d'accord ». Ça nous a foutu sur le cul, tous les 5, incapables de bouger, de dire un mot, de respirer. Les jumelles passèrent de Père Dieu en Père Dieu au moins 3 fois, et la banderole allemande ne bougeait pas, et le message allemand ne changeait pas davantage. C'est Galant qui... fidèle à son rôle, brisa le charme. C'est peut-être un piège. Il a dit ça sans fanfaronner, à regret, le cœur lourd, le nez tourné vers la boue de la tranchée. Une autre fois, on lui aurait cassé sa gueule au tourangeau, mais là, on ne pouvait pas lui donner tort. On en avait tant vu de la sournoiserie et de la malveillance qui venaient d'en haut, d'en bas et de derrière. On ne pouvait plus faire confiance aux mots. Vidal soupira. « Il n'y a qu'un moyen de savoir, assena-t-il. Je vais monter là-haut, sans casque, torse nu, le drapeau à la main, et on va voir ce qui se passe. S'ils tirent pas, c'est qu'ils sont francs du collier. » « Et s'ils tirent ?» j'ai demandé. « Ben, tu tires aussi, trou du cul !» a rétorqué Vidal. « T'es encore plus con que ce que je croyais. »« Hé, t'as compris ce qu'il a voulu dire ?» murmura posément Séché, le seul qui pouvait tenir tête au chef. « On va tirer ça au sort ?»« Pas question, » dit Vidal. « Je ne veux pas être tué, mais je ne veux plus tuer personne. »« Toi ?» dit-il en désignant Séché du menton. « Et Lopez, vous avez des enfants, donc vous bougez pas. » Bernard et Galant y sont mariés. Moi, j'ai beaucoup de fiancées. Autant dire que j'en ai aucune. Et puis ma mère m'a juré que, si je mourais au front, elle tuerait mon père, cet enfoiré de juteux, ce colonel de mes fesses qui a voulu que moi, son fils, j'aille faire une guerre qui m'écœurait. Si je crève, il crève. Ça me fera une consolation. Il n'y avait pas grand-chose à répliquer. Comme toujours avec Vidal. Alors, on s'est mis en rond. On a bu le rhum qui nous restait, fumé les clopes qu'on avait sauvées ou cachées des copains, puis on a tous embrassé Vidal qui suait à grosses gouttes malgré le froid du front. Il a posé son casque, puis il a quitté sa veste et sa liquette. Quand il a été torse nu, Lopez s'est approché de lui et lui a donné un médaillon de la Vierge qu'il portait autour du cou depuis son baptême. Puis on l'a tous serré dans nos bras et il est monté. Je jure, sur la tête de toutes celles et de tous ceux que j'ai aimés dans ma vie, que les 5 minutes qui ont suivi ont duré 5 siècles. Vidal se tenait les bras tendus vers le ciel, le drapeau dans les mains, claquant des dents, tremblant comme une feuille sous la bise, et on voyait la peau de son dos et de ses bras devenir bleue et transparente. Quelque chose bougea dans la tranchée teutonne. Honorman au pétoir, à moitié fou de rage et de terreur. Mais au lieu de la foudre attendue, apparut un gars blond et musclé, qui était lui aussi torse nu, qui tremblait lui aussi, et qui tenait un drapeau au-dessus de sa tête. Le message n'avait pas changé. Compris. D'accord. J'ai jamais rien vu d'aussi beau que cet Allemand avec son drapeau. Vidal tomba à la renverse dans nos bras, terrassé par la tension et par le froid. On le rhabilla vite fait et, comme on n'avait plus d'alcool, on le serra dans nos bras pour le ravigoter, on le broya sous nos bourrades de brute et on alla même jusqu'à masser ses pieds pour le réchauffer. Et puis on rigola, comme des veaux, comme des bossus, comme des jeunes gens de 25 ans qui attendaient de rire depuis trop longtemps et qui avaient enfin une bonne raison de le faire. Dans la tranchée d'en face, on entendait aussi des rires. La nuit passa là-dessus.
Une pupille noire entourée de blanc, le visage fatigué braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12-7. Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres, la guerre débouchée, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là, à voir tomber des âmes. Tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné. Au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir. Il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat? Et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas, l'homme est-il un animal? Comme à cette époque le mal est déjà caporal. La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée. La suite, l'avenir est à long passé. L'avenir est à long passé. L'avenir est un long passé. Une pupille noire, entourée de blanc. Le visage ciré, son regard est terrifiant. Placé à quelques pas de là des Allemands. 1944, Jean-Marc est un résistant. Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer. Lui qui n'est pas homme d'action est devenu maître de guerre. Après le cyclone qui frappa sa mère et son père, d'une étoile jaune, il est venu droit de l'enfer. Tant d'années passées à prendre la fuite, tant de journées consacrées à lutter contre l'antisémite. Jean-Marc sait qu'il n'a plus de recours. Le cap qu'il a placé pour faire sauter le train est bien trop court. La mort se fait sentir, mais il n'a pas de remords. Comment le définir? C'est la nature de l'homme qui l'a poussé à être comme ça. Se sacrifier pour une idée, je crois qu'on ne résiste pas le mal. Et maintenant général, de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l'Allemagne. Au loin le train s'approche et l'on peut distinguer sa fumée. La suite, l'avenir est un long passé. Passé. L'avenir est un long passé. L'avenir est un long passé. Une pupille noire entourée de blanc, c'est ce que je peux voir devant la glace à présent. Je viens de me lever il y a quelques instants. C'est difficile à dire au fond ce que je ressens. Après la nuit que j'ai passée, dur a été mon réveil. À tout ce que j'ai pu penser avant de trouver le sommeil. À toutes ces idées qui n'ont causé que des problèmes. La réalité et toutes ces images de haine. Tant d'années passées à essayer d'oublier. Tant de journées cumulées et doucement il s'est installé. Je me suis posé ce matin la question. Est-ce que tout recommence? Avons-nous perdu la raison? Car j'ai vu le mal qui doucement s'installe sans aucune morale. Passer à la télé pour lui est devenu normal. Comme à chaque fois avec un nouveau nom. Après le nom d'Hitler j'ai entendu le nom du front. Et si l'avenir est un long passé, je vous demande maintenant ce que vous en pensez. Comme Marcel et Jean-Marc, ma vie est-elle tracée? La suite, l'avenir est-il un long passé? Je vous demande ce que vous en pensez. Verrai-je un jour le mal à l'Élysée? La France est-elle en train de s'enliser? L'avenir est-il un long passé?
Le lendemain, il fallut s'organiser. S'organiser pour attendre 3 nuits et 3 jours sans tirer et sans que les planqués de l'arrière nous envoient les gendarmes nous gauler, direction le peloton d'exécution. La première nuit, on la passa à roupiller comme on l'avait pas fait depuis des lustres. Au matin, dans le froid glacial de la tranchée, on entendit résonner les galoches boiteuses de l'adjudant Chosdou. Nous, pour vous dire, on l'avait surnommé « encul dur », ce compère-là. Ça vous donne une idée de comment on le tenait en estime. Un jaunâtre, un vaurien, un planqué, pas une once d'humanité, mais une valerie en or massif, jamais en retard pour exécuter un ordre, même le plus dégueulasse. À sa tronche, on a vite vu qu'il se doutait de quelque chose. Avant qu'il soit trop près de nous, Vidal nous ordonna de fermer nos gueules. « Y a que moi qui parle, c'est clair? Si ça tourne mal, je me débrouille, au poste, en position. » On ne discuta pas, comme d'habitude avec Vidal, mais on garda tous une oreille sur ce qui se disait dans notre dos. Vidal, lâcha Chosdou sans préambule. Mon adjudant, répondit le chef. Ça tire pas beaucoup depuis hier, par ici. C'est vrai, mon adjudant. On n'en revient pas nous-mêmes. Pas vrai, les gars? 4 casques opinèrent en rythme. À croire, poursuivit Vidal, que les chleux ont des ordres pour pas tirer. Et vous, vous en avez? Pardon, mon adjudant? Je comprends pas. On a quoi? Chosdou approcha son museau puant du nez de Vidal et hurla. Et vous, putain, vous en avez des ordres pour pas tirer? Non, bien sûr, mon adjudant, répondit Vidal avec un aplomb hallucinant. « Mais on s'est dit que ça serait intelligent de pas gâcher les munitions. » On ne saura jamais si c'est ce mot, « intelligent », qui surprit tellement en cul dur qu'il recula de 2 pas, ou si l'assurance tranquille de Vidal lui avait fait l'effet d'un coup de poing dans la tronche. Toujours est-il qu'il resta muet pendant au moins 1 minute, une éternité pour lui. Quand il retrouva la parole, il était fou de rage. « Oh, ne vous a jamais, Vidal, vous entendez? Jamais !» hurla-t-il. « Demandez d'être intelligent. Pas plus à vous qu'à vos hommes. Vous êtes d'accord ?»« Oui, mon adjudant, » répondit Vidal avec une placidité glaciale. « Alors maintenant ?» ordonna Chosdou d'un ton tranchant en détachant chaque syllabe. « Vous allez tirer dans cette direction. » De l'index droit, il désigna les lignes allemandes. « Oui, mon adjudant, bien sûr, mon adjudant, » répondit Vidal, « à vos ordres. » Nous, au ras de la tranchée, le nez vers l'est, on n'en croyait pas nos oreilles. Vidal était-il en train de nous lâcher? Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Chassedou s'est retrouvé le nez dans la boue, avec la baïonnette de Vidal plantée dans son cul. Et notre camarade lui disait posément que, comme ses fesses, à l'adjudant, étaient tournées dans l'axe de la direction indiquée, il attendait une confirmation pour tirer. Bleuâtre, avec des reflets marrons qu'il est devenu, le gradé de l'arrière. Et pour la première fois, il n'a pas confirmé un ordre. Et nous, pour la première fois aussi, on a regretté qu'il ne le fasse pas. Mais on avait d'autres chats à fouetter que ce guignol-là. On lui enfourna la tête et le haut du corps dans un sac de jute, on lui attacha pieds et poings, et on le jeta dans un coin de la tranchée, pas loin des latrines. Tout ça nous occupa le cerveau et les mains pendant 10 minutes, mais à la fin, le problème restait entier. Pour tous ceux qui commandaient à l'arrière, le silence de notre ligne de tir était plus que suspect. Elle était coupable. Et à l'époque, un soldat qui canardait pas, c'était déjà un soldat mort. « On va tirer en l'air. On n'a pas le choix, » ordonna Vidal. « Mais ceux d'en face, » répondit Galland, « ils vont croire qu'on a rompu la trêve. »« Ceux d'en face, » intervint Séché, « ils sont comme nous. Ils ont le même problème. » Ils doivent tirer, sinon ils vont attirer l'attention sur eux. On va leur dire. Il y a encore de la place sur le drapeau blanc ?
Plus beaucoup.
Alors on va faire court. Et Vidal ajouta, sous le premier message, tire en l'air, pas le choix. Aussitôt, les Allemands nous envoyèrent la réponse qu'ils avaient déjà faite, ce qui fit marrer Galland, qui maugréa, putain, ils savent rien dire d'autre. Vidal le toisa avec mépris. Écoute, mon gars, là-bas, en face, il y a un type moins con que nous cinq réunis. Alors je te conseille de la fermer. Penaud, Galland s'exécuta et, pour donner l'exemple, visa un nuage. On fit tous de même. Et les Allemands nous accompagnèrent. Le nuage poursuivit sa course nonchalante, et quand il fut trop loin, on se mit à viser le ciel, puis le soleil déclinant, et enfin, on fit des cartons sur les premières étoiles.
Le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'en cueillant, rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Puis, tout se tut. On se sourit dans la pénombre. On venait de gagner 24 heures. C'est là que Vidal eut une autre idée de génie. Il envoya Lopez vers l'arrière pour demander des munitions supplémentaires. Le Catalan s'en alla en rigolant, au ras des fossés, et revint vers le matin aussi lourd de poudre que la grosse Bertha. À l'aube, le sulfatage reprit de plus belle. Des deux côtés, à croire que les Allemands avaient eu la même idée que nous. Un avion français s'approcha, mais, comme il craignait sans doute de se faire dégommer par le feu roulant qui montait du secteur, il ne s'approcha pas assez près pour voir ce que nous faisions vraiment. Le 10 novembre passa comme ça. Nos têtes explosées sous la pétarade, nos oreilles sifflées, nos os tremblaient comme des branches sèches, mais on tirait, on tirait, on tirait. La nuit revint. On la passa comme on put. Moi, sans dormir, parce que je savais que le lendemain serait à pile ou face. Pile, c'était le tribunal militaire, parce qu'on ne pouvait pas tenir plus longtemps. Face, c'était l'armistice et la vie sauve. Et ce fut face. Vers les 9h du matin, deux gendarmes vinrent nous apporter la nouvelle. La guerre était finie, ces salauds d'Allemands nous emmerderaient plus, et vive la France ! Un des deux crut malin de rajouter qu'il fallait pas qu'on se gêne pour en descendre encore deux ou trois, histoire de faire le compte. Il a jamais su qu'il est passé à deux doigts de recevoir une balle dans la tête. Et la balle, elle était dans ma pétoire. Par chance, Vidal, à côté de moi, a posé sa main sur mon bras au moment où j'allais épauler. Les gendarmes sont partis, et nous aussi, quelques heures plus tard. Où sont allés les Allemands? On ne le saura jamais. Mais je n'ai jamais oublié le jeune homme blond qui est monté sur sa tranchée pour nous répondre. Parfois, dans mes vignes, sous le soleil ardent du midi, je crois le voir apparaître et me sourire. Je lui souhaite bonne chance et longue vie, puis il disparaît. On est tous rentrés chez nous et Vidal a acheté un café du côté de Bercy. Le 8 novembre, tous les ans, il tirait le rideau et on fêtait à notre façon le souvenir de ces heures interminables où nous étions restés suspendus entre la vie et la mort. L'attente avait duré 3 jours. Alors, pendant 3 jours, on descendait autant de litrons qu'on avait tirés de balles là-bas dans la tranchée. Ensuite, on se séparait pour une année avant de revenir. Et puis, les rangs se sont clairsemés. La guerre a commencé par rattraper Lopez en 1936 dans un faubourg de Barcelone où il était allé donner un coup de main à un cousin anarchiste. Vidal, en 1942, quand il a vu comment tout tournait, a tiré son rideau pour toujours. Il m'a envoyé la clé du bistrot en me disant, dans une lettre laconique qui ne lui ressemblait pas, que le bar était à moi et que, lui, il partait pour un pays où plus rien ne le dégoûterait. Jamais. Ce con-là, il m'a pas donné le nom du pays. Galant, plus malin que les autres, encore une fois, a bien profité des années 20, puis a subclaqué d'une tuberculose mal soignée. Séché, en 1944, est mort sous les bombes qui ont fait sauter son école et ses élèves avec. C'était comme si la mort se foutait de ma gueule. Avec sa trogne sans nez, elle semblait me dire « Je t'ai pas eu à Verdun, mais maintenant, t'as vu comme je t'ai à l'œil. » Moi, je m'en foutais. J'avais eu mon heure de gloire, de triomphe, de bonheur. Avec 4 copains, on avait réussi à vaincre la connerie humaine pendant 72 heures, autant dire une éternité. Et ça, la faucheuse, elle ne me l'enlèverait jamais. Elle ne pourrait jamais me voler ces heures de camaraderie plantées dans la boue de Verdun et qu'elle aille se faire l'enlaire. Le soleil, les vignes, le vent, le vin. Après Verdun, j'ai plus jamais touché une arme à feu. Et, en fuyant les fusils, j'ai aussi fui les hommes, sauf les 4 de la tranchée, bien sûr. Maintenant que je n'ai même plus la force de soulever un sarment, maintenant que la moindre tramontane me pousse dans le fossé, je sais que l'heure a sonné de raconter cette histoire pour qu'on sache que, tôt ou tard, la vie donne à tout le monde l'occasion de devenir moins con. Sur ce, salut et fraternité, camarades.